Bonjour à tous et bienvenue sur les routes de l'Asie, épisode numéro 28, architecture européenne à Bangkok. Vous êtes bien sur les routes de l'Asie, le podcast du voyage d'aventure et découverte en Asie. Mon nom est Romain Lazzarotto et aujourd'hui j'ai le plaisir d'inviter dans l'émission Luc Citrino qui est un expert de l'architecture coloniale en Asie et également en Thaïlande, c'est là où il habite à Bangkok et aujourd'hui il va nous faire découvrir des bijoux d'architecture dans cette fascinante ville. Alors je vous rassure tout de suite, tous les noms qui vont être cités sont à retrouver sur une carte et une application mobile qui l'édite et dont les liens seront à retrouver sur la page de l'épisode sur lesroutesdelasie.com/28. Bienvenue dans cette visite très originale de Bangkok. Alors bonjour Luc, bienvenue sur les routes de l'Asie.
Eh ben merci, enchanté.
Eh ben je suis très content de vous avoir dans l'émission aujourd'hui. Merci d'avoir accepté l'invitation et puis d'avoir accepté de nous faire visiter ou revisiter, on va voir, Bangkok d'une façon vraiment, vraiment originale. On va vite comprendre pourquoi. Alors avant de commencer dans le vif du sujet, comme toujours je demande à mon invité, voilà, présentez-vous en deux petites minutes, dire ce que d'où vous venez et puis ce que vous faites dans la vie.
Alors je ne sais pas si je vais arriver à tenir deux petites minutes, mais bon. Je vais un petit peu vous raconter mon parcours. En fait, donc, je suis journaliste plutôt orienté transport aérien, tourisme. Alors, bien sûr, avec des débordements sur la culture. Et je me suis installé il y a 13 ans maintenant, en Asie. D'abord à Kuala Lumpur, parce que j'ai travaillé au cours d'une interview avec le PDG de la compagnie AirAsia. En fait, en parlant beaucoup à bâton rompu, j'ai réussi à le séduire à ce moment-là. Donc, il m'a demandé si je voulais joindre la compagnie pour aider au développement en faisant des études un peu sur le caractère socio-géopolitique des destinations pour voir là où le potentiel existait. Mmh. Et puis, bon, une fois que mon contrat s'est terminé, j'ai repris mon activité de journaliste et j'ai décidé de, parce qu'on m'a envoyé à Bangkok pour aider justement à la création de la compagnie low-cost Thai AirAsia. Et après cela, j'ai décidé de rester à Bangkok et de travailler comme je le faisais autrefois, donc en tant que journaliste, en me spécialisant de plus en plus en fait sur des sujets toujours liés au tourisme, mais plus par rapport à la société, les arts, la culture, la préservation du patrimoine, l'héritage, etc. Car ce sont des sujets encore qui n'ont pas trouvé un public si mature en Asie. Mmh. Je dirais plutôt pour des questions d'éducation. En fait, il y a pas cette sensibilisation que nous avons en Europe avec tous les avantages et même les inconvénients que ça comporte.
D'accord. Donc, alors, ce qui est vraiment intéressant aujourd'hui, c'est qu'on va donc visiter cette ville de Bangkok, qui est évidemment très connue en Asie. Alors, les gens en général viennent à Bangkok pour après aller ailleurs en Thaïlande, aller sur les îles ou aller au nord, par exemple. Mais c'est aussi un lieu touristique à part entière. Hein. Il y a beaucoup de choses à faire à Bangkok.
Évidemment.
Donc, évidemment, les gens viennent pour voir les temples, le Grand Palais, qui est le plus connu, se balader sur les canaux, voir les marchés, goûter la nourriture et puis faire un peu ou beaucoup la fête. Donc on a un peu l'impression que Bangkok, finalement, on a un petit peu tout vu, tout dit sur ce qu'il y avait à faire.
Oui.
Mais on va voir aujourd'hui que ce n'est pas le cas.
Absolument. Alors voilà, parmi donc, j'ai une passion pour terminer un petit peu, pour introduire notre sujet sur Bangkok. En fait, moi, j'ai une passion qui date d'il y a bien longtemps déjà, c'est l'architecture. J'ai toujours été un très grand fan d'architecture. Et comme tout bon français, d'architecture plutôt ancienne, oui. Pas d'architecture contemporaine, même si j'ai des coups de foudre pour l'architecture actuelle. Mais du coup, en allant en Asie, j'ai toujours aussi eu cette fascination pour l'architecture coloniale, non pas parce que je trouvais que l'époque coloniale a été une époque merveilleuse. Là aussi, on a des pour et des contre. Et on pourrait dire que dans les pour de la période coloniale, il y a l'architecture et l'idée de créer des espaces urbains à l'européenne en Asie. Et c'est vrai que ça a permis de refaçonner beaucoup de villes d'Asie. Et ce qui m'a beaucoup surpris à Bangkok, c'est le fait qu'on y trouvait une architecture, on va dire, d'obédience ou de sensibilité européenne. Chose qui est d'autant plus surprenante que la Thaïlande clame haut et fort qu'elle n'a jamais été colonisée. Mmh. Donc du coup, je me suis beaucoup penché sur cette histoire et j'ai commencé à explorer cette ville. Et ce que je trouve extraordinaire à Bangkok et que j'aimerais bien aujourd'hui partager avec vous et tous vos auditeurs, c'est le fait que Bangkok n'est pas une belle ville, c'est une ville excitante. Il y a 150 caractéristiques qualificatives pour cette ville, mais on ne peut pas dire que c'est une ville, ça n'est pas Venise.
C'est vrai.
Bien loin s'en faut. Même si elle a été considérée comme, comme la Venise de l'Asie du Sud-Est à une époque.
Grâce au canot, oui.
Canot, mais bon. Aujourd'hui, ça n'est plus qu'un très, très, très lointain souvenir. Mais c'est une ville, justement, dans une ville qui n'est pas d'une extrême beauté, eh bien, c'est plutôt amusant et intéressant de découvrir de véritables petits bijoux architecturaux. Et à cause de ça, on est plutôt très agréablement surpris et on peut découvrir des choses absolument merveilleuses dans cette ville. Et c'est ça que j'ai commencé à explorer. Et à force de le promouvoir, d'en parler, eh bien, l'Union européenne, qui a un bureau à Bangkok, a demandé à une entreprise avec laquelle je travaille de créer une carte qui recenserait les monuments européens de Bangkok. Et donc, on a fait appel à moi pour le faire, ce qui m'a donné cette opportunité de travailler systématiquement sur ce sujet et effectivement d'apprendre encore plus de choses et de découvrir encore plus de trésors dans cette ville.
Ah bah c'est vraiment intéressant et ça fait plaisir d'avoir un expert sur le sujet, d'autant plus voilà, que c'est pas la chose qu'on vient chercher en premier à Bangkok. Hein. Comme je l'ai dit, on vient d'habitude plutôt pour visiter les temples locaux thaïlandais, mais c'est assez inattendu finalement de ce genre de visite.
Oui, alors ce qui est très inattendu, c'est par exemple, vous avez mentionné le Palais Royal, le Grand Palace. Chose très intéressante, c'est que beaucoup de gens qui se promènent à l'intérieur du Grand Palais ne se rendent pas vraiment compte que la plupart des bâtiments du Palais Royal sont en fait d'essence européenne. Alors, ça s'explique pourquoi donc la Thaïlande a eu ce désir à partir de 1860. On peut dater ça à 1850-1860. Donc, on est dans le règne de Rama IV. Rama IV qui est en fait très féru de culture occidentale, c'est le fameux roi d'Anna et le roi,
hein, le
film et donc cette histoire vraie donc de ce roi qui a demandé à avoir une gouvernante européenne donc d'origine britannique qui est venue donc éduquer et inculquer en même temps donner aux enfants du roi cette vraie culture occidentale, donc qui se reflétera encore davantage lorsque l'on passera sous le règne de Rama V, donc son fils. Mais en tout cas, Rama IV a déjà une idée de l'Europe qui est assez favorable, parce que bon, c'est un roi qui est un roi, je pense, très intelligent et qui remarque que l'Europe au XIXe siècle, et ça c'est quelque chose qu'on a peut-être un peu oublié aujourd'hui, mais l'Europe est le modèle de la planète au XIXe siècle. Ce que les États-Unis ont été au XXe siècle et ce qu'aujourd'hui, probablement, l'Asie est au XXIe siècle, l'Europe a joué ce rôle jusqu'en 1940, jusqu'à l'orée de la Seconde Guerre mondiale. Mmh. Et donc, toute référence au modernisme, à ce qui était moderne, contemporain, avancé et ouvert au reste du monde, devait être d'essence européenne. Alors c'est vrai que la Thaïlande se trouvait dans une situation un petit peu délicate sur un plan historique, puisqu'à partir de 1800, on peut dire à partir entre 1840 et 1860, c'est la conquête des empires coloniaux. Mmh. Et c'est vrai que la Thaïlande, même si on n'en parle pas beaucoup en Thaïlande en tant que telle, on parle surtout du fait que la Thaïlande a merveilleusement résisté à la colonisation. En fait, si elle a merveilleusement résisté à la colonisation, c'est pour une raison géopolitico-stratégique évidente, c'est que la Thaïlande devient un état tampon entre Empire français à l'est et un petit peu au nord et Empire britannique au sud, à l'ouest et au nord-ouest. Donc en fait, l'État qui se trouve au milieu et qui va permettre aux empires britanniques et français de ne jamais pratiquement être face à face, sauf sur 40 kilomètres dans le triangle d'or, donc entre Laos, Birmanie et Thaïlande, eh bien, c'est le Siam de l'époque. Mais les rois thaïs à cette époque, on s'était dit que pour préserver et jouer à armes égales avec ces empires qui les entourent et qui ont effectivement des convoitises aussi de saisir quelques territoires, de ne pas saisir l'ensemble du territoire du Siam, mais de saisir quelques territoires, eh bien, c'est de se montrer comme des Européens. Et qui dit donc être moderne, c'est donc faire venir des architectes, des ingénieurs, toute une flopée d'Européens vont débarquer au Siam à partir de 1860, et surtout avec l'arrivée de Rama V au pouvoir, qui là va reconstruire totalement Bangkok, le centre-ville autour du palais royal, dans un style typiquement européen.
D'accord. Il faut remettre effectivement l'histoire dans le contexte. Donc vous êtes en train de dire qu'en fait la Thaïlande n'a pas vraiment résisté aux colonies européennes, c'est vraiment sa situation géographique qui lui a permis de ne pas être envahie. Finalement.
Absolument, absolument, qui l'a protégé. Alors évidemment, ça, ce n'est pas un discours officiel des Thaïs, mais bon, si on étudie un petit peu, c'est évidemment, c'est une raison relativement évidente. Hein. La Grande-Bretagne a saisi, on va dire, 65% de l'Asie. Je ne vois pas pourquoi ils n'auraient pas pris la Thaïlande dans la foulée. C'est pas avec une armée, avec des éléphants et quelques armes, que ça aurait vraiment repoussé les Britanniques. Il y avait des raisons géostratégique évidente. Même chose du côté de la France. La France n'avait pas du tout envie de se retrouver confrontée aux Britanniques, sachant que les Britanniques étaient quand même très conquérants. Donc la Thaïlande était un royaume bien commode pour les deux puissances coloniales de l'époque. Mais du coup, alors, ce qui est intéressant pour revenir à la Thaïlande stricto sensu, donc à partir de 1845-1850, le roi Rama IV fait venir à la cour des scientifiques et des ingénieurs. Et je conseillerais à vos auditeurs, s'ils ont vraiment envie de voir, l'une des premières réalisations européennes contemporaines. Il y a eu quelques réalisations européennes au XVIIe siècle aussi, avec le roi Narai, notamment au-dessus d'Ayutthaya, donc à Lopburi. Ayutthaya avait des colonies en fait, européennes, mais on va dire que ce développement systématique d'une architecture européenne date vraiment du milieu du 19e siècle. Et donc, c'est le palais qui se trouve à Phetchaburi, dans le sud, donc pas très loin de Wayin. Et il y a donc ce palais qui est très, très beau sur une colline et qui est construit à la fois avec des stupa thaï et une architecture classique inspirée un peu du modèle grec et romain. Et qui est en fait un des palais d'été du roi Rama IV. Donc ça, c'est un des premiers bâtiments. C'est à peu près à 2h30 de route de Bangkok.
Et c'est ce qui lançait le mouvement un petit peu.
Voilà, c'est ce qui lance le mouvement. Alors à Bangkok, on commence à travailler en fait sur le palais royal, à la construction de bâtiments qui seront donc construits dans un style victorien, néo-gothique. Et puis à l'époque de Rama V, on construit donc un des très très beaux bâtiments emblématiques du palais royal qui est à la fois alors construit en style victorien, le haut, et les toits sont construits en style thaï, donc un style totalement hybride et qui a été en fait, j'ai pas le nom en tête parce que bon, j'ai eu tellement de noms à regarder que j'ai oublié un peu les noms des architectes, mais l'architecte en fait venait de Singapour.
D'accord.
Donc de British Malaya à l'époque, et donc il construit cette espèce de bâtiment dans ce style totalement hybride qui est en fait probablement le plus caractéristique de cette époque où on essaye de mêler architecture européenne et architecture thaïlandaise. Alors, et ce qui est très intéressant, c'est que bon, les rois thaïlandais, enfin les rois du Siam à l'époque, puisque bon, le terme de Thaïlande n'apparaît qu'au XXe siècle, donc c'est tout le Siam à cette époque-là. Le roi Rama V, en fait, est très amoureux des Européens, mais en même temps, il y a une espèce de défiance. Donc, on va aller chercher des architectes qui, en fait, n'ont rien à voir avec les empires coloniaux. Donc, on va faire venir à Bangkok, notamment, beaucoup d'architectes d'Italie. Alors, c'est vrai que l'Italie est le berceau de l'architecture classique, y compris pour nous, Européens. Et en fait, en Thaïlande, il y aura jusqu'à une trentaine d'architectes, sculpteurs, peintres, qui vont totalement redessiner et transformer le centre-ville de Bangkok. Donc, on peut dire, sans se tromper, que Bangkok est probablement la ville la plus italienne d'Asie. Il y a des bâtiments dans cette ville qui évoquent plus la Florence qu'elle n'évoquerait la Thaïlande traditionnelle ou l'Europe. Alors, il n'y aura pas que des Italiens, parce que voilà une autre caractéristique qui fait que Bangkok est une ville unique par rapport à Singapour, Hanoï, Saigon ou Rangoon, c'est qu'en fait, on n'a pas, ou Jakarta, Batavia à l'époque pour les Hollandais, c'est qu'en fait, on n'a pas l'imposition par la colonie, par l'empire colonial d'un modèle. Quand on a construit européen dans les villes que je viens de nommer en Asie du Sud-Est, c'est en fait pour montrer la puissance et l'influence de la force du pouvoir colonial sur les cultures autochtones.
Oui, c'était complètement imposé. Ouais.
Voilà. Ici, en Thaïlande, ce sont les rois qui font venir des architectes, donc de leur propre volonté. Donc, en fait, il va y avoir un mélange extrêmement éclectique. Donc, c'est vrai que, on va dire, sur les 500 structures qui ont été construites en Thaïlande, probablement la moitié ou les deux tiers sont d'origine italienne. Mmh. Mais on trouve également des architectes allemands qui sont venus. Et il y a quelques très beaux palais en Jugendstil, donc en art nouveau allemand, qui sont encore visibles à Bangkok et qui évoquent davantage Berlin que la Thaïlande. On a alors les Britanniques, parce que bon, certes les Britanniques sont à la tête d'un empire colonial très approfondi, mais les Britanniques ont valeur d'ingénieurs. Et en fait, il y aura beaucoup d'ingénieurs anglais qui vont venir, et par exemple, l'un des ponts, qui est le Memorial Bridge, qui est l'une des dernières constructions faites par des Européens à la fin des années 30, est en fait une entreprise de Glasgow qui a construit le Sydney Harbour Bridge, exactement avec cette même structure métallique. Donc, on a en fait un grand éclectisme dans les Européens qui vont venir construire à Bangkok à cette époque. Il y aura même quelques Français, pas beaucoup, mais il y aura aussi des Belges, il y aura des Danois. On a comme ça 6 à 7 nationalités qui auront travaillé à Bangkok entre 1860 surtout jusqu'en 1932. Après la première révolution thaïlandaise, donc qui met fin à la monarchie absolue et qui la remplace par la monarchie constitutionnelle, en fait, la royauté thaï est très endettée et n'a plus d'argent. Donc on renverra tous les Européens chez eux à ce moment-là.
D'accord. C'est intéressant parce que les pays dont vous avez parlé, là, donc Italie, Allemagne, Danemark, n'étaient pas du tout des pays colonisateurs à cette époque. Il faut recadrer un petit peu là. Je vais juste faire un petit résumé rapide pour les gens qui ne savaient peut-être pas. Mais en gros, effectivement, à cette époque-là, l'Asie du Sud-Est, tous les pays, sauf la Thaïlande, donc, sont occupés, sont colonisés. Donc, on a la Grande-Bretagne qui a la Birmanie, Malaya, donc qui est la Malaisie et Singapour aujourd'hui. Les Français, évidemment, l'Indochine française.
Oui.
Vietnam, Cambodge, Laos aujourd'hui. Les Hollandais contrôlaient l'archipel indonésien.
Oui.
Et les Espagnols étaient déjà depuis un peu plus longtemps avant aux Philippines. Donc effectivement, la Thaïlande, c'est vraiment un cas très particulier. Ouais.
Et les Portugais ont des comptoirs un petit peu partout.
Et les Portugais ont des comptoirs un peu partout. Donc finalement, la Thaïlande a eu la liberté. C'est un petit peu, enfin, je ne sais pas si vous serez d'accord avec l'expression, mais c'est un peu l'art qui a colonisé la Thaïlande, pas les pays finalement.
En fait, c'est plus que l'art. En fait, c'est vraiment cette idée de la modernité. C'est un terme que je déteste, mais bon, je pense que dans ce cas-là, justement, s'appliquant au XIXe siècle, la modernité était européenne. Donc, il fallait que la Thaïlande, pour être à l'égal des empires, soit européenne. Et c'est ça qui a fait que la Thaïlande s'est jetée à bras ouverts dans une culture européenne. Alors, qui reste une culture superficielle, mais tout de même, elle est effectivement très visible aujourd'hui.
Donc, est-ce que c'était un besoin des rois de se mesurer aux empires coloniaux alentours, de montrer qu'il y avait aussi une puissance dans ce pays qui n'était pas colonial, mais une puissance par l'architecture, par ce qui est visible?
Absolument, c'est de montrer que la Thaïlande est un pays moderne et que si l'on veut discuter avec les rois thaï, eh bien, il faut les traiter... il faut traiter le Siam d'égal à égal parce que c'est un pays qui lui aussi sait construire un chemin de fer, qui lui aussi sait faire des canaux, qui lui aussi a des routes goudronnées, qui lui aussi a des entrepôts, a un port, a aussi des institutions, une administration et des bâtiments administratifs qui sont des bâtiments européens. Voilà ce qu'était la Thaïlande. Par exemple, alors, pour vos auditeurs et qui se promèneront dans Bangkok. Donc, le quartier de Dusit, hein, est le quartier, en fait, qui est ce quartier royal construit au 19e siècle. Il y a cette très grande avenue qui s'appelle Ratchadamnon et qui est divisée en deux. Il y a Ratchadamnon Nok, qui est donc le petit Ratchadamnon, et Ratchadamnon Klang, qui est le grand Ratchadamnon. Alors, le grand Ratchadamnon a été reconstruit dans les années 30 dans un style typiquement art déco légèrement fascisant, vu qu'on était à cette époque et que la Thaïlande l'a avoué une très grande admiration aux États européens fascistes. Mais sur Ratchadamnon Nok, donc qui part du palais Dusit, qui est l'ancien parlement, qui est ce bâtiment immense construit en marbre de Carrare par des Italiens exclusivement, on a donc cette avenue avec beaucoup de palais, typiquement européen, et des arbres au milieu et une contre-allée. Et le roi, donc Ramassan, qui l'a fait construire sur le style des Champs-Élysées.
Rien que ça.
Donc, c'est le petit Champs-Élysées de Bangkok avec, comme on voulait se montrer moderne, eh bien, il y avait une petite contre-allée pour des vélos. Et donc, il y a quelques photos. On peut voir des clichés de la famille royale à vélo en train de faire donc de la bicyclette sur cette fameuse avenue, tout à fait à l'européenne.
D'accord. Est-ce que c'est des lieux qui sont encore bien préservés aujourd'hui? Est-ce que les Thaïlandais s'y rendent pour s'y promener? Est-ce que c'est encore des lieux qui ont une importance au quotidien chez les Thaïlandais?
Alors, ce sont des lieux qui ont une importance et qui n'en ont pas. Je vais m'expliquer. Ce sont des lieux importants parce que tous les ministères y sont. Donc voilà, donc en termes le pays entier est dirigé depuis le quartier de Dusit.
D'accord.
Et notamment depuis que le régime militaire s'est imposé en Thaïlande, le très beau ministère de la Défense est pratiquement la maison intime du Premier ministre. Et le palais, ce palais d'ailleurs qui est très très beau, qui est le premier grand bâtiment construit à Bangkok en 1860 à l'époque de Ramakhat, et le plus long palais ressemble d'ailleurs au palais royal de Stockholm, construit dans un style italien, donc c'est pour ça, et qui est donc construit par un Italien qui s'appelait Grassi, et qui venait d'ailleurs d'Autriche-Hongrie, puisqu'il était de Trieste, et à l'époque, bon, historiquement, Trieste était austro-hongrois, mais voilà. Donc, effectivement, ces bâtiments ont une importance essentielle dans la gestion de la Thaïlande. Alors, je dirais que pour le Thaïlandais moyen, eh bien non, parce que d'abord, bon, les Thaïlandais sont comme beaucoup d'Asiatiques en Asie du Sud-Est n'ont pas un amour immodéré des bâtiments anciens.
Ouais.
Là aussi, on peut en blâmer le système éducatif qui ne met pas vraiment l'accent sur...
C'est plutôt les shopping malls, si je peux dire.
Voilà, shopping mall et puis un bâtiment moderne. Un immeuble qui ressemble à un grand garage est beaucoup plus joli qu'une maison ancienne, c'est sûr. Puis en plus, on peut y tasser plus de gens. Donc, ça rapporte plus. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas cette culture. J'ai fait une interview avec une femme très intéressante qui est mariée à un Français, donc une Thaï, qui est à la tête de la Société royale d'architecture de Thaïlande, et qui m'a dit un jour, quand on a parlé ensemble de l'architecture ancienne, m'a dit « le mot architecture ne parle absolument pas aux Thaï. Le seul mot qu'ils comprennent est construction. » Donc, ça donne une bonne idée. Donc, effectivement, les gens ne vont pas se balader à Dusit. Moi, j'ai fait une promenade avec... Donc, quand on a lancé officiellement la carte du patrimoine européen de Bangkok auprès de la presse thaï, on a fait une promenade avec des journalistes thaï qui découvraient le patrimoine européen, qui n'en avaient même, je pense, aucune idée.
Ouais, donc, ils sont vraiment tournés vers l'avenir. Voilà, la construction, c'est quand même l'avenir. Et pour le coup, architecture, c'est le passé. Et donc, ils ont plutôt tendance à se tourner vers les nouveaux projets.
Voilà. Alors, il y a quand même un très grand avantage à Bangkok. C'est que ces palais qui ont été construits au 19e siècle, la plupart du temps, l'ont été sous initiative royale. Et connaissant donc l'immense respect qu'ont les Thaï pour leur monarchie, du coup, beaucoup de projets, il y a énormément de projets de restauration. Et actuellement, depuis 5 ans, je constate un véritable engouement pour la restauration des anciens bâtiments. Donc, il y a beaucoup de palais qui ont été restaurés depuis 5 ans et qui sont absolument remarquables. On a fait un travail remarquable en remettant au goût du jour les fresques qui avaient été recouvertes. Enfin, il y a une vraie mise en valeur, je ne dirais pas une prise de conscience chez tout le monde, mais il y a dans l'élite, notamment très liée à la famille royale ou à ce sentiment de la royauté, et chez quelques artistes cette idée qu'il y a un devoir de conserver aujourd'hui ces palais. Donc, les touristes qui se promèneront dans Bangkok vont avoir la possibilité de découvrir de véritables bijoux architecturaux s'ils sont intéressés par cette architecture européenne qui est totalement hors de contexte et qui est fascinante, du coup.
Donc, cette architecture européenne à Bangkok, est-ce qu'on peut dire qu'elle est unique en Asie ? Est-ce qu'il n'y a pas un autre endroit en Asie où il y a autant de diversité d'architecture européenne ? Est-ce que c'est vraiment propre à Bangkok ?
Alors, elle est unique en Asie pour sa diversité. Elle n'est pas unique pour sa qualité européenne. Je dirais qu'une ville comme Rangoon est infiniment plus belle que Bangkok, car c'est une vraie ville britannique. À Rangoon, on a l'impression d'être à Londres en 1860. Même chose de Hanoï. Hanoï est une splendide ville française, quoi qu'en disent les Vietnamiens, mais je crois que même les Vietnamiens en sont vraiment conscients. Non, ce qui fait le caractère unique de Bangkok, c'est cette diversité architecturale, effectivement.
Bah, c'est passionnant. Alors, les gens qui viennent d'écouter tout ça et qui vont aller à Bangkok pour la première fois ou qui vont y retourner, enfin, moi, je sais que j'y suis allé des tas de fois, soit pour le loisir, soit pour le boulot, et puis j'ai jamais eu vraiment l'occasion de voir ces bijoux d'architecture dont vous avez parlé. La prochaine fois, j'y manquerai pas. Ça m'a vraiment donné envie. Par où on commence? Parce que j'imagine qu'on ne parle pas de palais, on parle de beaucoup plus de lieux que ça. Comment on fait? Par où on commence?
Alors, il y a deux quartiers principaux si on veut voir une très forte concentration d'architecture européenne. Je vais commencer par le quartier le plus accessible pour les gens, là où se trouve un grand nombre d'hôtels, notamment le fameux Oriental. C'est le quartier de Charun Krung, qui veut dire en fait la route nouvelle ou le nouveau boulevard, qui est en fait le quartier européen d'origine. Donc, c'est là où, quand on a commencé, où le royaume du Siam a commencé à donner des concessions aux Européens pour faire du commerce, les Européens se sont implantés. Donc, ce quartier, alors, s'étend le long de la rivière du Chao Phraya, puisque le Chao Phraya, le fleuve qui traverse Bangkok, était en fait une voie de communication avec un port, construit par les Danois d'ailleurs, qui est aujourd'hui le nouveau centre commercial et de distraction asiatique, où en fait on a restauré une partie des anciens entrepôts qui datent de l'époque danoise. Donc ce quartier entre asiatique et l'oriental et un petit peu au-dessus, ce qu'on appelle Talad Noi, le petit marché, et où il y a la banque du Siam, qui est d'ailleurs la première banque commerciale créée par le Siam, et qui est un bâtiment fait aussi par Joachim Gracie, dont je viens de parler pour le ministère de la Défense, et qui a construit un bâtiment alors dans le style florentin. Donc, c'est une très belle banque qu'on peut visiter d'ailleurs. On peut se rendre à l'intérieur. Ils ont gardé tout le décor comme en 1900. Donc, dans ce quartier-là, il y a énormément de bâtiments. Alors, tout autour, entre le Shangri-La et l'Oriental, il y a la cathédrale de l'Assomption, construite par les Français, et qui ressemble beaucoup à la cathédrale de Saigon. Il y a le Custom House, donc la maison des douanes. C'était là que le roi Rama V, quand il est revenu de voyage, notamment dans les empires coloniaux, puisqu'il est allé visiter Jakarta, enfin Batavia à l'époque, Singapour, Rangoon, quand il est revenu à Bangkok, il débarquait là avec tous ses cadeaux. Donc c'était un endroit très symbolique. Là aussi construit par Joachim Gracie, donc à l'époque de Rama IV, qui est un très beau bâtiment d'essence italienne. Il y a la résidence de l'ambassade de France. Il y a l'église du Kalawar, qui se trouve à côté de la banque commerciale du Siam, qui est une très belle église néo-gothique, à l'intérieur d'une école, mais en demandant gentiment la permission, il n'y a pas de problème, on peut la visiter. Il y a à peu près une vingtaine de bâtiments dans ce lieu-là. En face de la... Alors, il y a un bâtiment très intéressant qui, à mon sens, n'a pas été très bien rénové à l'intérieur, mais qu'il est intéressant quand même de visiter. En face de l'Oriental, il y a un petit centre commercial d'antiquités qui s'appelle Opi Plaza. Et en fait, c'était le premier grand magasin construit à Bangkok dans un style occidental. Et ce magasin a été construit par des Allemands. Donc c'était une enseigne aujourd'hui. C'était une enseigne allemande, voilà. Donc ça, ce premier quartier, on peut y déambuler pendant des heures. Je dirais qu'une demi-journée en y allant de façon assez relaxe permet de découvrir beaucoup de choses. Alors, la carte qu'on fait avec l'Union européenne doit être réimprimée. Actuellement, elle n'est plus disponible. Elle a été tirée à beaucoup d'exemplaires, mais elle a disparu. Elle, elle a été très vite épuisée. Il devrait y avoir une réédition. Mais en tout cas, on peut la télécharger sur le site de l'Union européenne en Thaïlande, qui est European Union in Thailand. C'est facile à trouver sur Google. Il y a une application aussi qui existe, donc qui non seulement parle de Bangkok, mais qui parle de toute la Thaïlande, où il y a, je crois, une quarantaine de villes de Thaïlande avec des bâtiments construits par des architectes européens ou d'essence européenne.
Donc vous êtes vraiment à l'origine de ces cartes, hein. C'est vous qui les avez confectionnées.
Oui, absolument. Oui, c'est moi qui ai travaillé sur ces, en tout cas sur la sélection des lieux.
Bah, c'est très intéressant. On va mettre les liens. Et puis c'est vrai que c'est important d'avoir la carte parce que bon, Bangkok c'est quand même une ville assez énorme. Et tous ces noms que vous avez cités, je doute que nos auditeurs arriveront à les écrire sans faute. Voilà. Donc il va falloir un guide, hein. Il va falloir une carte.
Tout autour du Shangri-La, voilà. Là, on peut regarder. Ensuite, donc voilà ce premier quartier. Alors après, on peut prendre le bateau et se rendre au Palais Royal. Et bien sûr, alors il y a l'intérieur du Palais Royal avec 4 à 5 bâtiments européens absolument formidables. Et donc, face au Palais Royal, il y a donc cette espèce de grand champ de parade, qui est le champ de parade royale, donc qu'on appelle Sanam Luang. Tout autour, alors il n'y a pas grand-chose, sauf tout au bout de ce champ-là, mais c'est en fait le début du quartier de Douzit. Et tout autour, donc ce quartier royal de Douzit, est en fait la véritable ville européenne voulue par Ramas V essentiellement et Ramas VI. Et là, on a, je dirais, une bonne centaine de bâtiments européens. Alors, tout à côté du Palais Royal, très facile à visiter, c'est donc le ministère de la Défense. On n'y rentre pas, mais très facile à voir de l'extérieur. Très, 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 très beau bâtiment, l'un des plus beaux probablement. On peut longer ce bâtiment parce que c'est le plus grand bâtiment en superficie de Bangkok d'origine européenne. Je crois qu'il fait 300 mètres de long. De mémoire. En face, il y a le palais Sararom, qui est un très beau palais dans une teinte un peu orange saumon, qui a été en fait construit pour le frère du roi et qui a servi de résidence aux familles royales européennes quand elles venaient visiter le Siam. Alors, on ne peut pas y accéder, c'est fermé, mais le jardin est ouvert. Et le jardin est un très beau jardin européen fait par des Anglais et des Italiens. Et donc, ce jardin qui se trouve juste derrière le palais Sararom, on traverse un petit canal et en face, il y a un très, très joli temple que personne ne visite. Donc voilà, qui est un endroit formidable à connaître parce que très souvent, le Wat Pho est plein de monde et c'est plus même un peu pénible. Alors, c'est Wat Banjamabopit. C'est un petit peu compliqué. Alors, il a été construit à la fin du règne de Rama IV. Et en fait, il est aussi connu comme Wat Benjarong. Benjarong est cette espèce de céramique très colorée qui est typiquement thaï. Et en fait, le temple a été recouvert de cette céramique, mais l'intérieur du hall d'ordination du temple a été construit en style vénitien gothique.
D'accord.
Avec des chandeliers de cristal. Donc voilà un lieu très intéressant où là encore, on mélange à la fois le style traditionnel thaï, parce qu'il y a un vrai stupa, parce qu'il y a un ubosot, donc un hall d'ordination qui est de quintessence thaï, et en même temps une architecture européenne.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Il y a quand même encore des éléments thaï, parce que j'ai envie de dire, sinon, si on se balade au milieu de ces 100 bâtiments, est-ce qu'on se croit encore en Asie quelque part ?
Bien sûr, on se croit toujours en Asie. Le temple, par exemple, le temple de marbre, qui est un des grands temples temple très connu des touristes, probablement le plus visité après le Wat Pho, en fait, est un temple typiquement thaï, entièrement construit par des Italiens.
D'accord.
L'architecte est totalement italien. Le marbre vient une fois de plus de Carrera. Alors, ce qui est très joli, et voilà encore une fois, quand on parle de visite de Bangkok, alors il y a beaucoup de touristes qui vont voir ce temple, ressortent, ils reprennent leur bus et puis vont voir autre chose, et ils ne se promènent pas dans les jardins. Et le jardin, au bout du jardin, il y a les monastères des moines qui habitent donc à côté de ce temple, qui sont construits en style européen typique. Et il y a une école qui est une école publique qui est construite en style totalement italien baroque.
D'accord.
Voilà donc le genre de choses que l'on peut visiter. Donc, autour de ce quartier de Douzit, il y a énormément de choses à voir. Alors, moi, j'ai quelques coups de foudre, ce sera plus facile. Il y a, par exemple, les palais qui sont aujourd'hui tenus par, qui appartiennent aujourd'hui à la Banque centrale de Thaïlande, qui en a fait des musées, que l'on peut visiter. Malheureusement, on ne peut pas prendre de photos. Et un des palais a été construit par un Italien, un autre palais a été construit par un Allemand, et ce sont des palais, on se croirait dans un palais baroque autrichien ou italien. Absolument splendide, très très beau, ça vaut vraiment le coup de le visiter. Il y a un autre palais alors qui est un peu ouvert au petit bonheur la chance, un peu ennuyeux, qui s'appelle le palais Varadis, V-A-R-A-D-I-S, Varadis. Alors, ils ont un site internet avec la bibliothèque, donc ce n'est pas tout le temps ouvert, parce que ça appartient à quelqu'un de privé que j'ai rencontré, un grand dignitaire encore aujourd'hui, qui est ministre, qui a une position actuellement très officielle. Mais celui qui a construit ce palais, c'est un de ses ancêtres, a fait promettre que ce palais serait toujours ouvert au public. Donc, en fait, il est ouvert de temps en temps, et c'est un palais en art nouveau allemand, typique.
D'accord.
Très intéressant. Il y a un autre palais, alors, qui est un musée, en face, en fait, du Dusit Samarkand Hall, qui est ce fameux parlement avec cette coupole gigantesque, qui est vraiment un très beau bâtiment, à côté du zoo de Bangkok. Donc, c'est facile, le zoo Dusit. Il se trouve juste à côté, le zoo Dusit, en fait, était l'ancien jardin du palais royal Dusit. Donc, bon, c'est très facile à retrouver. Devant, il y a une statue du roi Rama V, faite par un Français, ça a été fait en Alsace. Et bon, derrière, donc, il y a ce palais avec une très belle collection d'objets d'art de l'actuel roi Rama IX, mais tout en or, avec de très beaux objets. Mais tout autour, il y a 3 ou 4 palais merveilleux à visiter. Donc là aussi, ça vaut le coup de passer une demi-journée, voire même une journée complète à visiter le lieu, de se reposer. Il y a quelques cafés, il y a quelques endroits merveilleux. Alors, il y a le palais Parusakawan, qui est juste en face, alors qui est le musée de la police, sans intérêt, je dois dire. Bon, ouais. On y voit 3 uniformes, un téléphone sur lequel la police appelle les pompiers s'il y a un problème. Bon, donc ça n'a pas un intérêt absolument remarquable, mais le palais lui-même est un très, très beau palais Art Nouveau également, avec des volutes, des fleurs, enfin, absolument comme à Nancy, pratiquement. Donc rien que pour ça, ça vaut le coup d'aller voir ce musée de la police. Un autre palais qui est en fait dans le site de la maison Vinman Mek, qui est un des grands lieux de visite à Bangkok, qui est la plus grande maison en teck, qui est un palais tout en teck, qui a été construit pour je crois, les filles du roi Rama V. Bon, le palais lui-même se visite, malheureusement, il y a eu beaucoup de constructions autour et on n'a pas beaucoup de perspectives sur ce palais, mais il y a un second palais dans la même enceinte, dans le jardin, qui est beaucoup moins connu et qui est Dusit Abhishek Palace, et qui est un palais, là aussi, en style oriental Art Nouveau. Alors là, à l'intérieur, il y a une collection d'objets qui a un intérêt presque aussi passionnant que le musée de la police. Mais le palais lui-même est très beau. Puis il y a surtout un superbe jardin et un café. Donc on peut y s'y restaurer. C'est plutôt très agréable. C'est juste à côté de l'ancien parlement, donc cette très belle bâtisse. Voilà donc là où on pourrait déjà donner. Avec ça, je pense que vos auditeurs pourront passer au moins 2 jours à se promener.
Ah oui, c'est ce que j'allais dire au début, j'allais dire bon, il va falloir prendre une journée pour faire tout ça, et puis au fur et à mesure que vous citiez les noms, je me suis dit non, c'est un week-end qu'il faut là.
Voilà, on peut faire une journée ou une demi-journée Charon Krung, donc le quartier européen, et puis une journée sur Dusit, mais Dusit, il y a énormément de choses à voir. Et si on est avec des enfants, on peut par exemple faire le zoo, où il y a à l'intérieur encore quelques petites maisons de l'époque d'essence européenne, genre des verrières, des choses comme ça, donc c'est plutôt plaisant, plus Vinman Mek, qui est quand même un très beau palais à l'intérieur, comme je dis, l'extérieur a été un petit peu abîmé à mon sens, mais bon, il y a de quoi quand même passer un moment très intéressant. Il y a la National Gallery où non seulement il y a, alors qui est en face du Palais Royal, à l'autre bout de Saddam Luang, donc qui permet d'avoir un panorama de la peinture thaïlandaise. Et là, on peut voir aussi au 19e siècle comme l'Europe a influencé les peintres thaïs de l'époque, notamment dans les portraits royaux. Et en même temps, c'était en fait l'ancien institut monétaire de la Thaïlande. Donc, c'est un très beau bâtiment italien aussi.
Bon, bah, ça fait énormément de choses. C'est passionnant. Hein. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait tout ça à visiter à Bangkok, en dehors des choses, voilà, qu'on a citées au début, les choses bien touristiques. C'est vraiment, vraiment original. Et puis, très inattendu, effectivement, de faire un voyage à travers l'architecture européenne du 19e au début 20e siècle. C'est vraiment, vraiment inattendu. Je suis assez impressionné par votre connaissance et votre, voilà, tous les noms que vous sortez comme ça de votre tête. C'est, voilà, c'est très, très impressionnant. Il va falloir une carte, hein, comme je l'ai dit.
Oui, absolument. La carte recense à peu près tous les noms.
Voilà. Donc, on mettra le lien de cette carte et de l'application. Donc, c'est une application mobile, hein. On peut se guider avec, j'imagine.
Oui. Ah, et il y a les explications, il y a des photos. Donc, et il y a le évidemment, c'est lié à Google Maps, donc on trouve tout D'accord. de suite le lieu. Ça fait se repérer si on a un GPS sans problème, donc pour se déplacer, pour visiter ces lieux. Alors oui, donc beaucoup de gens pourraient se dire bon, moi, j'ai quelques amis qui m'ont déjà dit oh bon oui, mais on va pas en Thaïlande pour voir des bâtiments européens. Ce que je peux effectivement concevoir. Alors d'abord, c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de bâtiments qui sont des mélanges, donc il y a quand même ce côté fascinant de voir comment l'architecture européenne s'est immiscée dans l'architecture thaï ou inversement, parce que généralement c'était des architectes européens qui reprenaient des éléments d'architecture thaï, mais c'est aussi l'histoire de la Thaïlande.
Bien sûr.
Ça explique, ça donne une très bonne explication, et cette fascination qu'a eu le Siam pour la Thaïlande explique beaucoup de l'histoire de ce pays. Donc, à ce titre, c'est très intéressant. Alors, peut-être pas pour quelqu'un qui vient pour la première fois. Effectivement, peut-être une demi-journée à visiter quelques lieux suffira. Mais quelqu'un qui vient pour la deuxième, troisième ou quatrième fois, là, ça vaut vraiment le coup d'approfondir cet aspect effectivement relativement méconnu des touristes et des Thaïs.
Dans nos auditeurs, il y a pas mal de gens qui habitent en Asie, donc qui sont probablement déjà allés à Bangkok. Et puis les gens qui habitent en Europe ou ailleurs, en général, la Thaïlande, c'est un pays assez populaire, les gens reviennent, donc c'est une très très bonne raison de revenir. Et c'est voilà, de très bonnes idées de visite, vraiment vraiment original. Ça me fait plaisir parce que dans l'émission, on parle souvent d'aventures, de découvertes de peuples, et on n'a encore jamais parlé d'architecture. Et c'est vraiment, ça me fait plaisir que ça soit avec vous sur Bangkok.
Ah, je pourrais vous en rappeler, il y a beaucoup d'autres villes où il y a des architectures formidables et inconnues.
Eh ben, c'est intéressant et je vais faire le lien parce que vous avez une page Facebook hein, que vous maintenez et sur laquelle vous mettez beaucoup de photos, pas que de Bangkok, mais d'autres villes en Asie. Donc voilà, dites-nous un petit peu de mots sur cette page Facebook qu'on peut suivre.
Hein. En fait, je travaille sur un site internet qui s'appelle colonialheritage.asia, qui malheureusement n'a pas été encore mis vraiment en ligne parce qu'il n'était pas très beau. Donc j'essaie de retravailler sur un design un petit peu plus attirant. Alors du coup, ça prend beaucoup de retard. Mais en attendant, j'ai mis une page Facebook qui est ouverte à tout public, bien évidemment, parce que l'idée est de faire la promotion de ces architectures où je prends beaucoup de lieux, de destinations. Et j'essaie, notamment sur des destinations moins connues, de montrer cette formidable richesse de l'architecture européenne en Asie, alors surtout en Asie du Sud-Est, mais j'ai fait quelques ajouts sur Macao, un peu sur la Chine, y compris sur le Japon. Alors, le Japon aussi est un cas dont on pourrait parler parce qu'effectivement, un autre pays qui n'a pas été colonisé, mais dont l'époque Meiji, donc l'époque moderne, hein, l'époque 1870, 1880 jusqu'à 1930, les empereurs japonais se sont beaucoup inspirés de l'architecture européenne et on a construit une architecture avec des architectes japonais, mais qui ont construit dans le style européen. Donc il y a quelques éléments. J'ai mis par exemple la Grande Gare de Tokyo qui vient d'être restaurée et qui a été restaurée telle qu'elle était à la fin du 19e siècle. Voilà, donc si les gens sont intéressés, effectivement, ils trouveront non seulement sur la Thaïlande, il y a beaucoup de lieux effectivement fascinants en Thaïlande. Il n'y a pas seulement Bangkok, mais il y a une trentaine ou quarantaine de villes en Thaïlande où il y a un patrimoine d'essence européenne très fascinant, très, très intéressant. Mais il y a beaucoup sur la Malaisie, l'Indonésie, un des patrimoines les plus riches. Alors, d'essence hollandaise essentiellement, on trouve quelques éléments portugais, anglais, etc. Mais c'est surtout hollandais, avec des très, très, très belles constructions. Et puis, bien sûr, la Malaisie, la Birmanie, etc., etc. Et le Vietnam, le Cambodge, et puis toute la Chine française. Voilà.
Et ben ça fait encore pas mal de sujets. Vous êtes cordialement invité si vous voulez revenir en parler dans l'émission parce que voilà, il reste beaucoup beaucoup de choses à voir.
Moi, je viendrais volontiers parler de l'architecture art déco en Indonésie. Je pense que c'est le seul pays d'Asie du Sud-Est qui a une telle richesse en art déco. Il y a eu de l'art déco, hein, donc ce style années 30 un peu géométrique qu'on a trouvé partout, notamment à Hanoï, on trouve des exemples à Kuala Lumpur, à Singapour. Mais là où il y a eu, et en Thaïlande, puisqu'il y a eu une architecture d'inspiration fasciste, et il y a d'ailleurs une ville qui s'appelle Lop Buri, qui a été reconstruite dans les années 30 avec énormément de bâtiments dans ce style moderne classique tel que l'affectionnaient les années 30, un peu dans le style Trocadéro à Paris. Mais donc je parlerai volontiers de l'architecture art déco parce qu'il y a quelques lieux extraordinaires à découvrir et qui sont vraiment la quintessence de l'architecture de l'Indonésie, parce que les architectes hollandais qui ont travaillé là-dessus ont travaillé avec l'idée d'intégrer l'architecture indonésienne à ces structures art déco. Donc c'est fascinant. Il y a 2-3 villes qui sont totalement art déco en Indonésie, donc je serais ravi d'en parler.
Bon, ben voilà, rendez-vous est pris. Merci beaucoup, Luc. C'était vraiment un plaisir. Et puis, voilà, une discussion très sympathique sur un sujet dont on parle pas assez. Donc, ça me fait plaisir. Grâce au podcast, j'espère qu'on aura donné envie aux auditeurs de revisiter Bangkok avec un autre regard, totalement un autre regard. Et puis, ben voilà, vous revenez quand vous voulez dans l'émission. Je vous dis encore une fois merci beaucoup. Et puis, à bientôt alors.
Merci beaucoup, Romain. Et très bonne journée. Au revoir.
Merci, au revoir. Et encore un grand merci à Luc Citrino pour avoir pris le temps de partager sa passion au micro de Sur les routes de l'Asie. Je pense que cette visite de Bangkok était vraiment très enrichissante et très différente de ce que vous proposent d'ordinaire les guides de voyage. Alors si ça vous tente de suivre l'itinéraire proposé par Luc, il faudra vous armer de la carte et de l'application mobile qu'il a réalisée. Tout ça est à retrouver sur le site web surlesroutesdelasie.com. Sur ce même site, vous l'avez peut-être raté si vous n'avez pas écouté l'épisode précédent, mais vous pouvez acquérir un joli t-shirt sur les routes de l'Asie, disponible en blanc et en gris pour hommes et pour femmes. J'ai déjà eu quelques commandes, donc ça fait très plaisir. N'hésitez pas à m'envoyer une petite photo, ça me fera très plaisir, et je la posterai avec votre accord bien sûr sur la page Facebook. Sur cette même page ou sur Twitter et iTunes, vous pouvez bien sûr laisser votre appréciation de l'émission, je lirai ça avec toujours beaucoup beaucoup de plaisir. Et aujourd'hui j'ai envie de citer Sylvie de Lyon qui m'a dit sur iTunes « Depuis que j'ai découvert ce podcast, j'ai tout écouté attentivement. Ayant moi-même voyagé en Asie, les interviews des voyageurs sont très riches d'informations et apportent une autre vision du voyage pour aller au plus près d'un pays, d'une région, à la rencontre des populations. Merci pour cette fenêtre ouverte sur le monde. » Fin de citation. Merci beaucoup à toi Sylvie, et puis j'espère que ce dernier épisode sur Bangkok t'aura aussi apporté une autre vision de cette ville. Dans le prochain épisode, nous allons reparler de volcanisme, j'en suis très content, avec quelqu'un de très très intéressant, je ne vous en dis pas plus, mais ça devrait être passionnant. Alors à très bientôt, merci pour votre écoute et excellent voyage en Asie.